Chers frères et sœurs, je vous salue dans le beau nom de notre Sauveur Jésus-Christ qui nous a réunis ce matin. Si je commence en disant la crainte de l'Éternel est, je pense que vous pouvez continuer, et le commencement de la sagesse, c'est écrit exactement. C'est une phrase à laquelle nous avons pris l'habitude, que nous avons pris l'habitude d'entendre, mais qui n'est pas très facile, je trouve, à reformuler. On ne va quand même pas dire, comme on dit aux enfants, sois sage, arrête de faire des bêtises. Par contre, on pourrait dire, celui qui veut devenir sage doit craindre l'Éternel. Et c'est cette crainte de l'Éternel dont j'aimerais parler avec vous ce matin. Alors, c'est toujours mieux quand c'est la Bible qui nous dit comment elle comprend cette expression. Et je vous propose donc de visiter quatre passages dans la Bible où il est question de la crainte de l'Éternel. Mais avant de voir ces passages, on va agir par élimination. Et je vais essayer de dire ce que n'est pas la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel ne se résume pas seulement à croire en Dieu. Beaucoup de gens croient en Dieu, mais ne le craignent pas. Beaucoup de gens même lui parlent, mais ne le craignent pas. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas non plus la trouille de l'Éternel. Excusez-moi l'expression un peu triviale, mais je n'ai pas trouvé de mot qui exprime le mieux ce qu'on peut ressentir. On a la trouille de la foudre, par exemple. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la trouille de l'Éternel. Dans une relation d'amour, il ne peut pas y avoir de place pour la peur. L'apôtre Jean nous le dit bien. Dans sa première lettre de Jean, au chapitre 4, au verset 18, il dit « Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable chasse toute crainte. » Par contre, chez l'homme en rébellion contre Dieu, il doit y avoir cette crainte, cette trouille de Dieu. C'est ce que Rahab a exprimé aux deux espions qu'elle a accueillis. Elle dit ceci en Josué chapitre 2, « Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, donc tous les miracles que Dieu a fait pour la sortie d'Égypte, depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. » Les habitants de Jéricho, je crois, hein. Les habitants de Jéricho avaient la trouille de l'Éternel, mais Rahab est allée au-delà de cette trouille et elle a fait alliance avec les espions et donc avec le Dieu de ces espions. Craindre l'Éternel, ce n'est pas non plus se méfier de lui. Quand nous voyons des hommes ou des femmes souffrir dans leur corps, être frappés par un grand malheur, nous pouvons nous dire, et si Dieu me faisait connaître une telle épreuve? Avec Dieu, on ne sait jamais ce qui va nous tomber dessus. Je dois avouer que moi, pendant un certain temps, je raisonnais comme ça. Et Job lui-même était habité par ce genre de pensée. Quand on lit dans Job chapitre 3, verset 25, voilà ce qu'il dit. Tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Je suis sans cesse en proie à de nouveaux tourments. La crainte de l'Éternel, ce n'est pas la méfiance envers un Dieu qu'on ne peut pas prévoir, qui va toujours nous surprendre, et souvent nous surprendre de mauvaise manière. Alors, la crainte de l'Éternel, c'est quoi? Donc, comme je l'ai dit, je vous propose de visiter quatre passages. Le premier, c'est Genèse 22, verset 10. à 13. Vous connaissez bien ce passage, c'est le sacrifice d'Isaac. Le deuxième passage, c'est dans 1 Samuel chapitre 24. Là aussi, c'est un passage bien connu. C'est David dans la caverne avec Saül à portée de son épée. Le troisième passage, c'est Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. On va dire même du verset 16 au verset 28. Là, il s'agit aussi d'un passage que vous connaissez bien. Trois hommes devant une fournaise. Et le quatrième passage, c'est dans Exode, chapitre 1, versets 11 à 22. Je vais lire Genèse, chapitre 22, verset 10. Le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham !»« Me voici, répondit-il. » L'ange reprit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant, je sais que tu révères Dieu. » Ce qui est traduit dans d'autres versions par « Maintenant, je sais que tu crains Dieu. » Puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Et donc Abraham a vu dans les buissons l'animal qui allait remplacer son fils. En obéissant et en acceptant de lui offrir ce qu'il avait de plus précieux, Abraham montre qu'il craint Dieu. Il obéit sans comprendre où Dieu veut en venir. Et ce n'est pas faute d'avoir réfléchi, car l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il comptait sur une résurrection possible de son fils bien-aimé. Vous savez, ce genre d'obéissance et de sacrifice, Dieu les demande à quasiment tous les musulmans qui deviennent chrétiens. Car ils ont compris que pour être sauvés, il faut confesser de leur bouche le Seigneur Jésus et il faut croire que Dieu l'a ressuscité des morts. Et pour un musulman, devenir chrétien, ça signifie être rejeté par sa famille, être déshérité par son père, perdre son travail, se retrouver seul et menacé de mort. Et c'est quelque chose de très lourd, très cher à payer. Maintenant, la crainte de l'Éternel peut conduire à d'autres choix aussi difficiles. Je donnerai juste deux exemples. Une jeune fille chrétienne qui tombe amoureuse d'un garçon non chrétien, peut-être même athée convaincu, va certainement se demander, est-ce que je dois aller jusqu'au mariage? Est-ce que je dois renoncer à cet amour? Je donnerai aussi l'exemple d'un chrétien à qui Dieu demande de quitter son emploi, de quitter son pays, sa famille, pour devenir missionnaire, pour le servir comme évangéliste, prédicateur. Là aussi, il y a un sacrifice à accepter dans l'obéissance. Le deuxième passage, donc c'est 1 Samuel, chapitre 24, versets 4 à 8. Je lis donc, en passant des bacs à moutons, en bordure du chemin, Saül vit une grotte et y entra pour satisfaire un besoin naturel. Or, David et ses hommes se tenaient précisément au fond de cette grotte. Les compagnons de David lui chuchotèrent. Voici le moment annoncé par l'Éternel. Lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te semble. Alors David se leva et alla couper un pan du manteau de Saül sans que celui-ci s'en aperçoive. Dès qu'il l'eut fait, son cœur se mit à battre très fort parce qu'il avait coupé un pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de jamais faire une chose pareille et de porter la main sur mon Seigneur à qui Dieu a conféré l'onction. Car c'est de la part de l'Éternel qu'il a été oint. » Par ces paroles, David arrêta ses hommes, il ne les laissa pas se jeter sur Saül. Le roi sortit de la grotte et continua son chemin. Alors je vais peut-être lire un petit peu entre les lignes, mais pour comprendre comment David a réussi à couper un morceau du manteau de Saül alors qu'il était accroupi, c'est qu'il y a des choses qui ont dû se passer avant. Je pense que Saül s'est débarrassé de son manteau et de son épée pour se soulager. Et il était vulnérable. Et c'est pour ça que les hommes de David lui disent « Mais c'est l'occasion, profite-en. C'est maintenant que nous pouvons mettre fin à notre fuite. C'est maintenant que tu peux devenir roi. » Et ils n'attendent, comme dit le texte, ils n'attendent qu'un ordre, c'est que David leur dise, allez-y, tuez-le. Mais David craint l'Éternel. Il refuse d'écouter ses guerriers et de tuer celui que Dieu a choisi. Il écoute même son cœur, parce que le texte nous dit que son cœur s'est mis à battre à ce moment-là. C'est que là, il a senti que s'il tuait Saül, il y a quelque chose qui allait se passer de grave. Et donc, il se contente, c'est comme ça que je vois les choses, il se contente de couper un morceau du manteau de Saül, qui était certainement posé pas loin, pour après s'en servir comme preuve qu'il l'a épargné. En Côte d'Ivoire, et dans bien d'autres pays où la corruption règne, beaucoup de chrétiens et de chrétiennes se trouvent dans une situation similaire à celle de David. Pour avoir un travail, un logement et même un diplôme, il faut donner de l'argent, il faut se prostituer ou il faut se taire sur des pratiques condamnées par la loi. Qui écoutez ? Ceux qui poussent à la corruption ? Laquelle est pour eux incontournable, indispensable, ou faut-il écouter sa conscience et ne pas évoluer? Évoluer, ça veut dire progresser dans la vie, devenir quelqu'un. Quelle décision prendre? Celle qui glorifie Dieu ou celle qui assurera l'avenir? Ici en Europe, les couples chrétiens n'ont-ils pas été tentés, encouragés même, de recourir à un avortement quand on leur a annoncé que l'enfant qui allait naître serait probablement handicapé? Ou un patron n'a-t-il jamais demandé à son comptable chrétien de falsifier des comptes pour que l'entreprise puisse mieux fonctionner? Je passe au troisième passage de Daniel. Chapitre 3, versets 16 à 18. Avant le verset 16, Nebuchadnezzar a demandé à Shadrach, Meshach et Abednego, est-ce que c'est vrai que vous ne voulez pas adorer la statue que j'ai fait ériger? Et voilà ce qu'ils disent. Shadrach, Meshach et Abednego répondent et dirent au roi, « Ô Nabucodonosor, il n'est même pas nécessaire de te répondre sur ces points. Si nous sommes jetés dans la fournaise ou brûlés, où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peux nous en délivrer, ainsi que de tes mains, ô roi. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Nebuchadnezzar s'est mis en colère après. Voilà donc trois prisonniers qui refusent d'adorer une statue représentant celui qui les a capturés. Voilà trois hommes qui parlent avec assurance à un roi tout-puissant qui ne tremble même pas devant lui, ni devant une mort atroce et imminente. Voilà trois hommes qui confessent humblement leur confiance en leur Dieu, en osant affirmer à ce roi que ce n'est pas lui qui tient leur vie dans ses mains, mais que c'est l'Éternel. L'attitude et les paroles de ces trois hommes ont impressionné ceux qui assistaient à la scène. Et c'est Nabucodonosor lui-même qui nous explique ce que signifie craindre Dieu et ce que cela implique. Verset 28. Alors Nabucodonosor s'écria, « Loué soit le Dieu !» Donc ils ont été jetés dans la fournaise, ils ne sont pas morts, non seulement ils n'ont même pas été brûlés, mais ni leurs habits, ni rien, quand on les fait sortir, ils sont intacts. Et donc Nabucodonosor dit, « Loué soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se sont confiés en lui et qui ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur vie plutôt que de se prosterner et d'adorer un autre Dieu que le leur. Voici donc ce que je décrète. » Et il impose maintenant à tout son peuple d'adorer le Dieu d'Israël. Craindre Dieu, ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusqu'à affronter une mort atroce, et on connaît suffisamment l'histoire de l'Église pour nous rappeler combien de martyrs ont été passés à l'écartèlement, au bûcher, à la roue, parce qu'ils craignaient Dieu. En Marc, chapitre 13, verset 9, Jésus a annoncé à ses disciples, et donc à nous, qu'ils seront convoqués devant des hommes politiques puissants et qu'ils auront à témoigner de leur foi en lui. Mais il les rassure, l'Esprit Saint leur dira quoi répondre à ce moment-là. Quand le communisme était la religion d'État, en ex-URSS, des hommes, des femmes ont eu le courage de braver cette dictature athée et d'y faire entrer des milliers de Bibles. Ce fut la mission de l'association Porte Ouverte, vous le savez bien, parce qu'ils craignaient Dieu. Parce qu'ils craignaient Dieu, ils ont osé défier, avec toutes sortes de moyens, bien sûr, les puissants de l'État soviétique qui refusaient complètement que on prie Jésus, qu'on le loue, que les églises se rassemblent. Aujourd'hui, des hommes, des femmes se sont engagés dans des actions similaires pour que l'Évangile soit entendu dans plusieurs pays musulmans. Ne les oublions pas, soutenons-les dans la prière et par des dons, si c'est nécessaire. On passe au dernier texte. Dans Exode, chapitre 1, verset 11. Alors on imposa aux Israélites des chefs de corvée pour les accabler par des travaux forcés. C'est ainsi qu'ils durent bâtir pour le pharaon les villes de Pithom et de Ramsès. pour servir de centre d'approvisionnement. Mais plus on les opprimait, plus ils avaient d'enfants et devenaient nombreux, au point que les Égyptiens les prirent en aversion. Alors ils les réduisirent à un dur esclavage et leur rendirent la vie amère par de rudes corvées. Je passe au verset 15. Il y avait deux sages-femmes pour les Hébreux. Elles se nommaient Chifra et Poua. Le Pharaon leur donna cet ordre. Quand vous accoucherez des femmes des Hébreux et que vous aurez constaté le sexe de l'enfant, si c'est un garçon, mettez-le à mort. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Et les sages-femmes révéraient Dieu. Craignez Dieu, dit la version en hébreu. Mais les sages-femmes révéraient Dieu, elles n'obéirent pas au Pharaon, elles laissèrent la vie sauf au garçon. Alors le Pharaon les convoqua et leur demanda, « Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi avez-vous laissé vivre les garçons ?» Les sages-femmes ont répondu que les femmes hébreues étaient plus courageuses et qu'elles accouchaient sans sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple continua de se multiplier et devint extrêmement puissant. Comme les sages-femmes avaient agi parce qu'elles révéraient Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Mais le Pharaon ordonna à tous ses sujets, « Jetez dans le fleuve tous les garçons nouveau-nés des Hébreux, mais laissez vivre toutes les filles. » Alors, je voudrais d'abord faire une petite remarque sur ce passage. Le texte biblique nous donne le nom des deux sages-femmes. On va dire deux femmes insignifiantes. Mais Dieu a voulu que le nom de ces femmes qui craignaient Dieu traverse le temps et nous parvienne jusqu'à nous comme exemple. Par contre, le texte hébreu ne donne même pas le nom de ce pharaon. Pourtant, c'était quelqu'un de très puissant à l'époque. Ça ne vaut pas la peine de donner le nom de ce bonhomme, de cet homme méchant. Et c'est la preuve que Dieu regarde au cœur plutôt qu'à l'apparence. Parce qu'elles craignent Dieu, ces deux femmes ont bravé l'autorité de leur bourreau. Alors, on va dire certainement parce qu'elles ne voulaient pas participer à la destruction de leur peuple, mais je pense que c'est aussi pour une autre raison, c'est qu'elles ont discerné dans l'existence de leur peuple, dans l'existence du peuple d'Israël, dans ses souffrances, un plan de Dieu qui dépasse la situation. Dieu n'avait-il pas promis à leur ancêtre Abraham de lui donner un pays et que toutes les nations de la terre seraient bénies à cause de sa foi? Parce qu'elles craignaient Dieu, elles avaient eu le courage de désobéir au Pharaon, et Dieu a béni ces deux femmes-là et leur a donné une grande famille. Nous qui affirmons craindre l'Éternel, sachons discerner les plans de Dieu et prenons garde de ne pas nous opposer au plan de Dieu. Dieu nous bénira en retour. Je vous invite maintenant, ce sera la dernière partie de mon message, à prendre de la hauteur par rapport à l'histoire du peuple d'Israël. En Genèse 3, verset 15, Dieu a maudit le serpent et il lui a dit ceci. Je mettrai l'hostilité, la guerre, je mettrai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. Alors les théologiens, les exégètes ont vu dans cette parole de Dieu en Éden, une annonce du sacrifice de Jésus à la croix. C'est vrai qu'à la croix, le diable a mordu le Fils de l'homme au talon, mais sans pouvoir lui enlever la vie, sans pouvoir le maintenir dans la mort. Et le Fils de Dieu, par contre, a bien écrasé Satan quand il est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Mais bien avant la croix, donc après le jardin d'Éden, Satan, qui avait compris que Dieu avait choisi un peuple pour accueillir son Fils sur cette terre, Satan a bien compris qu'il fallait s'en prendre à ce peuple. Et on va voir ensemble, chronologiquement, toutes les tentatives qu'il a voulu, qu'il a essayé pour détruire Israël. Alors la première, c'est celle qu'on vient de lire, là, dans Exode chapitre 1, l'esclavage. L'esclavage n'a pas marché parce que plus on les faisait travailler, plus ils se multipliaient. Donc après, il a demandé à ce qu'on jette tous les garçons dans le Nil. Il faut savoir que le Nil, c'était le dieu des Égyptiens. Et c'était une façon d'offrir des sacrifices humains à ce dieu-là que de jeter tous ses enfants dans le fleuve. Mais que fait Dieu ? Dieu utilise cet ordre cruel pour épargner Moïse, et non seulement pour l'épargner, mais pour qu'il entre dans la cour de Pharaon et qu'il reçoive la formation qu'il a reçue. Nous connaissons l'histoire. Maintenant, quelles autres tentatives Satan a essayées ? Je les cite, le veau d'or. À cause du veau d'or, Dieu veut détruire Israël et se créer un autre peuple à partir de Moïse. Mais Moïse intercède pour le peuple. Vous lirez cela dans Exode, chapitre 32, versets 7 à 10. Après, il y a eu Balaam, ce prophète mystérieux qui n'arrive pas à maudire Israël, mais qui suggère à Balaak, roi de Moab, de le corrompre. De le corrompre comment ? Et c'est dans l'Apocalypse, au chapitre 2, que nous avons l'explication. En demandant à de belles Moabites de séduire les Israélites pour les entraîner dans un culte idolâtre où la sexualité avait une place centrale. Et heureusement que là aussi, il y a des hommes en Israël qui ont réagi et qui n'ont pas laissé le peuple se faire corrompre de cette façon. Tout ça, vous le trouvez dans Nombre, chapitre 22 à 25. Et donc, comme je l'ai dit, dans l'Apocalypse. Troisième tentative. Aman, sous le règne de Xerxès, le grand roi, de quel pays ? C'est que Haman a demandé à ce qu'on tue tous les juifs dans le royaume. Et grâce à la reine Esther, le peuple d'Israël a eu l'autorisation, le droit de se défendre. Ils se sont défendus et n'ont pas pu être exterminés. Une autre tentative, celle du roi Hérode, il y a 2000 ans, au moment où Jésus est venu sur la terre, il demande à ce que tous les enfants de moins de 2 ans, tous les garçons je crois, oui, tous les garçons de moins de 2 ans soient massacrés. Et à notre époque, Hitler, avec la Shoah, et en 1967, plusieurs pays musulmans, quand l'État d'Israël a été créé, plusieurs pays musulmans, dont l'Égypte, la Jordanie, la Syrie, l'Irak, soutenus par l'Union soviétique, ont décidé de détruire Israël. Et ça a donné lieu à un événement qu'on connaît tous, la guerre des six jours, où même les généraux israéliens de l'époque ont dit « C'est un miracle que nous ayons gagné cette guerre. C'est comme Dieu l'a fait dans l'histoire de notre peuple, où quand il se battait contre les Moabites ou un autre peuple, Dieu intervenait de façon miraculeuse. Ils ont dit « Cette guerre qui a été gagnée en six jours, c'est un miracle. » À la fin des temps, Satan lancera sa dernière tentative, sa tentative ultime pour attaquer Jérusalem, le peuple juif, et très certainement les chrétiens qui auront le courage de s'opposer à lui, parce qu'ils craignent Dieu. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse 22. Il va rassembler tous les peuples de la terre pour venir attaquer Israël, le peuple, la ville sainte. Et c'est à ce moment-là que Jésus reviendra, et c'est à ce moment-là que le diable sera saisi et jeté dans l'enfer. Nous qui affirmons craindre l'Éternel, sachons discerner les plans de Dieu et prenons garde de ne pas nous y opposer. Mais crions avec notre bouche et avec nos actes, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. Voilà ce que je voulais dire. Oh Dieu.